Quand tout est normal pour le commerce et le transit du charbon, la situation du port de Baltimore est idéale. À proximité relative d'importants lieux de production du nord du massif des Appalaches, en Virginie occidentale et en Pennsylvanie. Pour arriver jusqu'au port, le charbon prend le train par des lignes pratiquement dédiées. L'un des deux terminaux appartient d'ailleurs à une compagnie ferroviaire qui possède le réseau d'infrastructures qu'il est évidemment presque impossible de modifier ou d'adapter rapidement. L'autre est la propriété d'un producteur de charbon qui n'a également pas beaucoup d'alternatives en termes d'infrastructures. Le premier port américain pour l'exportation de charbon est celui de Norfolk, en Virginie, également sur la côte est, mais 400 km plus au sud. Il dessert donc d'autres régions de production et adapter les réseaux de transport ferroviaire ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. C'est pour cela que les exportateurs basés à Baltimore comptent les heures jusqu'au dégagement de la rivière Patapsco et la reprise du trafic maritime. Les producteurs sont donc coincés, mais leurs clients pourraient aussi l'être. Ils se trouvent de moins en moins aux États-Unis, où la demande pour cette énergie fossile, parmi les plus polluantes qui soient, est en baisse. Ces clients sont loin, très loin même, et la fermeture du port de Baltimore, si elle se prolongeait au-delà de quelques semaines, pourrait aussi perturber leur propre production. Le charbon exporté de Baltimore est utilisé par des producteurs de matériaux de construction en Inde ou des producteurs d'acier au Japon ou en Chine. Autant de marchés et leurs prix qui pourraient être influencés et déséquilibrés par une rupture prolongée dans leur chaîne d'approvisionnement si, à l'autre bout du monde, la fermeture du port de Baltimore devait se prolonger.